Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle de livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue. Mon invité aujourd'hui est Méziane Idjerwiden. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes là pour nous parler de Monsieur Areski, un destin à tire-d'aile. Le livre biographique de votre père, Areski Idjerwiden, préfacé par Ali Dilem et Frédéric Beniada. Un livre sur, dites-vous, la vie tumultueuse de votre père, Areski Idjerwiden. En quoi sa vie a-t-elle été tumultueuse?
C'est effectivement cette autobiographie, c'est un parcours, je pense, unique et surtout qui mérite d'être partagé. Il naît en 55 en Algérie, dans un village de Kabylie.
Alors on a le temps, on va raconter son histoire, hein, mais le livre débute avec son 60e anniversaire. Vous partez avec vos frères à Lisbonne pour cette fête, et dans le paquet du cadeau que vous lui présentez, eh bien il y a une photo de lui à 20 ans en illustration avec un livre blanc dont les pages sont à écrire. Comment est-ce qu'il reçoit cette invitation à écrire son histoire?
Pour être honnête, je ne l'ai jamais vu réagir comme ça et ne pas comprendre. Et ça a duré peut-être 3 secondes qui m'ont paru, le connaissant une éternité, il n'a pas compris durant ces 3 secondes l'invitation qu'on lui faisait de partager son histoire et de se raconter, parce qu'on estimait déjà que 60 ans, ça se marque, et qu'il fallait que son histoire, son parcours, qui même nous connaissions, au travers d'anecdotes, se devait d'être partagé.
Bien. Mais vous la connaissiez bien, cette histoire de votre père. Est-ce que vous aviez l'occasion de lui poser des questions sur des événements précis de sa vie, notamment sur son enfance en Algérie pendant la guerre de libération nationale?
Pour être honnête, moi je n'ai jamais osé poser de questions à mon père. J'ai découvert son parcours au travers d'anecdotes, au travers de rencontres, en vivant et en étant à ses côtés. Mais je pense jamais lui avoir posé directement 2 questions sur son histoire.
Parce qu'il fait partie d'une génération d'abord qu'on n'interrogeait pas, ce qu'on appelle la génération des taiseux. Hein. C'était avant les réseaux sociaux, les Facebook, tout ça. Les gens ne se racontaient pas, ils gardaient les choses beaucoup pour eux.
Exactement.
Et surtout les hommes d'ailleurs en plus, hein,
cette génération. Tout dit, et puis sachant aussi quand même que son parcours avait été extrêmement difficile, puisqu'il a vécu la perte de sa mère quelques jours après sa naissance, il a vécu la faim, il a vécu énormément de choses. C'est aussi très compliqué de partager cela, mais sa force, c'était aussi de faire passer les messages entre les lignes et de le raconter au travers d'anecdotes, toujours avec fierté et de façon positive.
Moi, j'ai été surpris qu'il se livre autant, finalement, dans son histoire, parce qu'il dit beaucoup de choses.
Il dit quasiment tout.
Même sur les rapports avec sa belle-mère, tout ça. Enfin, vous voyez, il dit beaucoup de choses.
C'est quelqu'un d'entier. Donc, il ne pouvait pas faire cet exercice-là de façon partielle. Et effectivement, ça peut paraître comme étant un contraste entre sa personnalité, effectivement, extrêmement discrète, et ce côté entier retranscrit et raconté dans son livre. Mais c'était lui, il était entier, il ne pouvait pas faire les choses à moitié.
L'histoire d'Areski Idjerwiden ce matin dans le Book Club. Votre père dit que le fil conducteur de son existence, c'est la faim. Alors vous effectivement, vous n'avez pas du tout connu ces périodes de vache maigre, mais comment est-ce qu'il parlait à ses fils de ce que c'est d'avoir faim?
De différentes manières, selon les circonstances et selon les époques aussi, bien entendu. Ça a commencé par la première faim qu'il a eue, c'est la faim alimentaire. C'était de ne jamais laisser un grain, et il était très très vigilant là-dessus, un grain, que ce soit un grain de riz, un grain, une pâte ou un grain de semoule dans son assiette, ça, gaspillage devait être nul. Et ça, il était vraiment très à cheval là-dessus.
Ouais, on gâche pas la nourriture.
Non, pas même un grain de semoule. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne laisse pas.
Ça, c'est quelque chose qui vous a transmis.
Absolument.
Ouais.
Absolument.
Sa mère meurt quelques jours après sa naissance, donc il est allaité par des nourrices du village qui vont se relayer.
Absolument.
Et ensuite, c'est une chèvre Alors, je sais pas si c'est lui qui la baptise, qui va la baptiser, mais en tout cas, il y a un nom à cette chèvre, qui va lui servir de mère nourricière, à tel point que quand il va s'installer, au Portugal, dans les dernières années de sa vie, il a cette envie d'organiser et de monter un élevage de chèvres.
Absolument, de chèvres et de Kabylie, si
oui,
si,
de chèvres si de Kabylie,
possible,
oui.
Si possible, parce qu'elle a effectivement cette, la chèvre a marqué son, a marqué cette période de sa vie, les premières années de sa vie, et a marqué finalement toute sa vie. Il a toujours eu un rapport assez particulier, avec la chèvre. Et comme vous l'avez dit, il s'était installé durant les deux dernières années de sa vie au Portugal. Pour retrouver aussi, l'objectif c'était aussi de retrouver un petit peu la terre. Mmh. Et parmi cela, la chèvre ou les chèvres faisaient partie intégrante de cela. Donc effectivement, on s'apprêtait, nous, malheureusement, on n'a pas eu le temps, à lui faire venir, commencer par une chèvre de Kabylie.
Pour démarrer.
Exactement.
Pour démarrer l'activité. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas installé en Kabylie directement?
Parce qu'il a, vous savez, il disait souvent, l'Algérie m'a permis d'apprendre, la France m'a appris à entreprendre. Les deux pays faisaient partie intégrante de son histoire, de son parcours. Il a un amour, et c'est des époques différentes pour les deux pays. Et ce qu'il a trouvé dans le Portugal, ça a été finalement une sorte de coup de foudre, parce que ce qu'il disait, c'était que c'était le meilleur des deux pour lui, en tout
c'était
cas.
C'était la
le
synthèse.
Mix, c'était la synthèse, exactement, de ces deux pays.
L'Algérie m'a permis d'apprendre, la France m'a appris à entreprendre. Votre père écrit dans son livre de mémoire, hein, l'Algérie, la France sont mes jambes. Quant à mes racines berbères, elles sont à la fois ma langue maternelle, le village où je suis né, la stature de mon père, mon engagement citoyen et la diaspora kabyle de Paris qui m'a accueilli, soutenu, aidé quand a commencé à pousser ma deuxième jambe, la française.
Tout est dit dans ces quelques mots. Et puis, là où il s'est installé au Portugal, il y a beaucoup de paysages qui ressemblent à la Kabylie. Donc, il n'était pas finalement très, très loin.
Votre père est un enfant de la guerre. Hein. Il naît quelques mois après le début de la guerre de libération algérienne, hein, donc le 1er novembre 54. Qu'est-ce qui lui en restait de cette guerre? Est-ce que c'est quelque chose dont il parlait avec vous, avec ses enfants, de la guerre d'Algérie?
Très peu, franchement très très peu. Moi j'ai pas de souvenir, si ce n'est les expériences du village où ils étaient... en quelque sorte prisonnier, mais il n'a jamais eu de, en tout cas dans ses propos, même dans ses expressions de ressenti, c'est un parcours ça fait partie de sa vie, mais il n'en a jamais énormément parlé. Pour preuve, il adorait la France, les deux pays faisaient partie intégrante de son de son identité, de son parcours. Si ce n'avait pas été le cas, je pense il n'aurait pas eu ce parcours là et cet esprit toujours positif.
Il a tenu dans son livre à faire figurer une histoire, hein, et enfin sa version d'ailleurs d'une histoire qui s'appelle La Vache des deux orphelins. Pourquoi est-ce qu'il tenait absolument à ce que cette histoire figure dans son livre de mémoire?
Parce qu'elle fait partie de son histoire, tout simplement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il était hors de question pour lui d'éluder quoi que ce soit. Et cette expérience, au travers de l'histoire, effectivement, de la vache et des deux orphelins, pardon, c'était une façon aussi pour lui de raconter cette période-là avec ses mots, souvent entre les lignes, de façon imagée.
Mais c'est une période. Dire les choses sans les dire, finalement.
Oui, mais quand même, on comprend que ça n'a pas été une période facile pour lui, qu'il l'a beaucoup, qu'il l'a beaucoup marqué. Et pourquoi aussi le raconter de cette manière? Parce qu'il était hors de question pour lui de blesser qui que ce soit. Jamais.
Il y a beaucoup. Il le dit. Hein, c'est quand même un livre où il y a beaucoup d'anecdotes qui remontent. Une des anecdotes qui lui revient de son enfance, puisque au départ son père doit aller travailler, il doit vendre sa force de travail. Exactement. Et son père revient et il ne le reconnaît pas pour la première fois. Et votre père dit qu'il en a souffert beaucoup.
Absolument. Comme vous le disiez tout à l'heure, la communication entre générations était n'était pas très, très importante. Et puis en plus, à cette époque-là et dans ces conditions-là, donc son père, mon grand-père, était effectivement ouvrier agricole et il revenait au village qu'une à deux fois par an. Mmh. Et à cette époque-là, lorsqu'il grandissait, effectivement, il revient une fois et il lui demande « Mais qui es-tu ?» Effectivement, son père ne le reconnaît pas. Donc forcément, ça marque le peu d'échanges qu'il y avait. Forcément, s'il se passe ainsi, forcément, ça marque. Mmh. Pour autant, il n'a jamais eu de rapport négatif, bien au contraire, avec son père. D'ailleurs, il y a souvent une phrase qu'il répétait et qui a expliqué aussi beaucoup de choses par la suite. C'est, même s'il ne lui parlait pas beaucoup, le peu de mots qu'il a eu à lui prononcer sont restés gravés de façon indélébile. Mmh. Il lui a dit, mon fils, l'école, seule l'école te sortira de là. Et ça, il l'a jamais oublié.
Votre père va faire une carrière dans le monde du voyage, hein, mais il faut se souvenir que c'était une époque où on voyageait pas beaucoup. Les enfants étaient pieds nus, donc il raconte évidemment qu'un jour il ira à Alger, qu'un jour il ira à Tizi Ouzou, mais que son premier voyage, c'est à Tixirte qu'il le fait, Tixirte-sur-Mer, qui était la grande ville d'à côté du village où il grandit, à Ifan. Et un incident le jour où il se rend à Tixirte, un petit pipi qui lui échappe.
Exactement. Ça peut paraître long, mais pour ceux qui connaissent, c'est à peine quelques kilomètres. Mais c'était pour lui effectivement loin. Et puis, je pense qu'à cet âge-là, c'est le changement, la peur, c'est difficile d'exprimer ce sentiment et ce changement aussi entre les conditions et ce qu'il vivait au village versus, si je puis dire, la grande ville qui était Tixirte.
On parlait de l'école tout à l'heure, à la rentrée 63, donc là on est après l'indépendance. Il se passe quelque chose puisque à cette rentrée, le directeur annonce aux élèves qui sont là qu'il sera désormais interdit de parler le berbère en classe. Donc pour tous les enfants de la région, c'est la seule langue qu'ils connaissent d'ailleurs, le berbère. Et là votre père va rentrer en révolte, et il dit, moi je rentre en révolte, mais c'est une révolte ouverte, frontale et provocatrice.
Il l'a toujours dit, j'ai toujours été, il se qualifiait toujours d'éternel perturbateur, et ça a commencé effectivement très jeune, et je pense que c'est une réaction assez naturelle et humaine, que lorsqu'on interdit à quelqu'un, et surtout très jeune, de parler sa langue maternelle, il n'en résulte pas que des choses positives. Lui, au moins, avait le courage de l'assumer et de la défendre. Et ça, effectivement, cela a marqué aussi beaucoup tout son parcours et son rapport à ses origines, à sa langue, à sa culture.
Puisqu'on le voit, hein, la défense du berbère, c'est un combat qui traverse sa vie.
Absolument. C'est aussi l'une des raisons, si ce n'est la principale, qui ont justifié son immigration et le fait qu'il ait quitté, qu'il ait interrompu ses études de droit qu'il faisait à Alger, à Ben Aknoun, pour venir s'installer en France. C'est qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait un rapport à la langue kabyle berbère qui était très compliqué, voire très violent. Et lui, vous l'avez compris, son caractère faisait qu'il était, il s'opposait. Donc forcément, il a fait de la prison d'ailleurs à plusieurs reprises. Je dirais au bout d'un moment, il en a eu un petit peu ras-le-bol, quoi.
Et il y a une histoire d'amour aussi dans ce voyage.
L'histoire, c'est la suite.
C'est la suite, oui. Exactement. Parce qu'il rencontre Bettina.
Bettina, effectivement, ma mère. Très peu de temps après son arrivée. Même là-dessus, il était très, très, très pudique.
Oui, mais il raconte finalement.
Effectivement, au travers de ce livre, en fait, ce qu'il ne pouvait dire, moi, avec ce livre, ce qu'il ne pouvait pas dire, ou n'osait pas dire, peut-être, par les mots, il l'a fait par l'écrit.
On découvre, enfin, lui aussi, il va découvrir comme toute une génération d'élèves, avec lui, l'arrivée des professeurs d'arabe qui venaient d'Égypte. Et lui, il avait, par exemple, un professeur d'arabe avec qui il avait des rapports très, on va dire, conflictuels.
Ça rentre dans cette logique. À partir du moment où vous opposez, vous interdisez, vous critiquez, bah forcément vous créez, ça c'est les, je dirais que c'est les germes un petit peu de la contestation, voire de l'opposition. Et comme lui n'avait pas sa langue dans sa poche, forcément ça pouvait difficilement bien se passer.
Monsieur Areski, un destin à tire-d'aile, c'est le titre de la biographie de votre père. Hein. Ça s'appelle Paris Méditerranée et on en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM vous conseille de lire Monsieur Areski, un destin à tire-d'aile aux éditions Paris Méditerranée. Notre invité pour en parler aujourd'hui, c'est Méziane Djerwiden. Vous êtes là pour parler du livre que votre père avait écrit. Enfin, c'est vous qui lui avez quand même suggéré de le faire. Et il l'a fait de bonne grâce, finalement. Il
s'est livré, de façon, à partir du moment, effectivement, on lui a offert, si je puis dire, cette invitation à l'occasion de son 60e anniversaire. Il s'y est consacré quasiment pendant plusieurs mois de façon quasi exclusive.
L'occasion de découvrir l'enfance d'un des grands entrepreneurs de ces dernières années, fondateur du groupe GoFast. Il avait racheté aussi la plus vieille compagnie aérienne française,
Aigle Azur. Européenne, même privée européenne, Aigle Azur.
Ouais, Aigle Azur.
Absolument.
Quelle fierté, hein, finalement. Il raconte d'ailleurs dans son livre la première fois qu'il prend l'avion pour venir à Paris dans son livre. Il dit que finalement, prendre l'avion, ça l'a peut-être moins ému, moins chamboulé que le fait de monter dans un camion, un berlier, qu'il l'avait pris sur les bords de la route un jour qu'il rentrait tard de l'école.
Je vous le confirme. Effectivement, ce qui peut paraître étonnant au vu de son parcours et de ce qu'il a réalisé, notamment dans le transport aérien, mais ce qui l'a toujours fait rêver depuis tout petit jusqu'à la fin, c'était d'être conducteur, chauffeur de camion. Là, il avait effectivement les yeux qui pétillaient. L'avion, bien sûr qu'il aimait ça, mais il n'y avait pas le même rapport. Il l'aimait aussi, le transport aérien, parce que c'était un fou de transport au sens global, et surtout parce que ce que ça permettait, le transport, et c'est ce que ça permet bien sûr toujours, le transport aérien. Mais c'était un rapport moins intime, si je puis dire, qu'avec effectivement le terrestre, le camion.
Pour un enfant qui a connu finalement le transport très tard,
hein. Bah, comme
qui n'a pas grandi avec la voiture, qui a, voilà, qui a...
Mais il l'a découvert aussi très jeune, finalement, d'autres manières, de façon différente. Il le raconte très bien. C'est aussi, avec la fin, c'est finalement, en plus de la fin, c'est aussi l'un des fils conducteurs, puisque très rapidement, c'est la brouette, et on se rend compte qu'à différentes étapes de sa vie, le transport l'a toujours accompagné.
Est-ce que, en lisant cette histoire, vous avez compris les clés de la réussite de votre père ?
Suis-je bien placé pour répondre ? Je ne sais pas. Moi, j'ai la chance d'être son fils et d'avoir vécu et grandi à ses côtés, donc d'avoir partagé quand même un certain nombre de choses. Donc, je dirais que j'ai quand même compris. Je ne sais pas, mais est-ce que c'est les clés, l'objectif, si vous voulez, de cette autobiographie, il l'a toujours dit, c'est en aucun cas de donner des leçons ou de donner des clés, parce que ce n'était pas déjà dans son tempérament. C'était tout simplement, c'était un partage de parcours, de vie, et je pense aussi de montrer, il y avait quand même un message, c'était de montrer aussi qu'on peut y arriver tout en gardant un certain nombre de principes. On peut être chef d'entreprise et être solidaire et être humain
ce qu'était votre père,
hein. Ce qui était exactement et en gardant aussi un état d'esprit positif. D'ailleurs, il y a un dicton kabyle qui dit, et ça je trouve que ça l'illustre bien, pourquoi dire non quand oui existe, alors que oui existe. Voilà, c'était l'a priori toujours positif qui permet de sans changer de réussir. Après, il y a différentes formes de
Alors, il y a quand même un certain nombre de clés, hein, d'une certaine façon. Par exemple, il y avait son rapport à l'école. Premier examen, l'examen d'entrée en sixième. Il raconte qu'il échoue. Absolument. À cet examen, mais que... Il est très impacté d'ailleurs par cet échec, et il cherche à le contourner, et il s'inscrit
En fait, c'est un peu, excusez-moi, c'est un peu différent. Il se punit déjà lorsqu'il apprend son échec effectivement à l'examen. Donc là, il était scolarisé à Tizi Ouzou. Pour se punir, s'auto-punir, s'auto-sanctionner, il s'impose de rentrer à pied, donc de Tizi Ouzou au village, c'est une cinquantaine de kilomètres. Donc ça montre déjà un état d'esprit, un caractère fort. Et c'est ensuite, c'est le hasard, la chance d'une rencontre, effectivement, qui l'informe qu'il y a d'autres voies possibles pour continuer. Parce qu'après cet échec, il s'apprêtait quasiment à abandonner.
On ne pouvait plus continuer ses études, voilà.
Exactement.
En gros.
Et cette chance-là, ce hasard-là, cette discussion-là, lui permet de rester dans le parcours, si je puis dire, dans le cursus scolaire. Et ce sera d'ailleurs l'origine et la genèse de la fondation qu'on a créée récemment en son honneur. Et il voulait la créer justement pour éviter, si je puis dire ça, que tout le monde ne soit pas, que les jeunes aujourd'hui ne soient pas uniquement dépendants de la chance, de la bonne étoile ou d'une rencontre.
Et là, il raconte qu'il signe avec lui-même un pacte d'obligation de résultat.
Exactement.
Et donc ça, ce pacte d'obligation de résultat, c'est un pacte qu'il va donc auquel il va s'honorer toute sa vie.
Exactement.
Ensuite, la famille va partir donc puisque la condition s'améliore en 65 par s'installer à Tizi Ouzou. Votre grand-père, son père, change à 40 ans de vie et décide de devenir boulanger. Il s'installe à Tizi Ouzou pour devenir le boulanger de la haute ville. Et là, il raconte ce départ en Renault Juva 4. Hein. J'ai regardé ce que c'était parce que j'avais vraiment oublié ce que c'était comme modèle. Mais il raconte tout ça, toute la famille installée. La grand-mère, pas très convaincue d'ailleurs par ce départ, qui ronchonnait un peu puisqu'on leur achète son village pour partir s'installer à Tizi Ouzou. Qu'est-ce que ça va changer pour lui, cette installation à Tizi Ouzou, finalement?
C'est une... Vous voyez, le transport, déjà, il est marqué juste par le transport du village à Tizi. Avant d'aller à Tizi Ouzou, déjà, il est marqué surtout par la façon et le moyen de s'y rendre. En quoi il est marqué? Il est marqué parce que déjà, c'est une étape, si je puis dire, dans son parcours. C'est un changement radical. C'est une grande ville, entre guillemets, en opposition avec Haïfan, où il a grandi. Il découvre la ville, c'est effectivement l'Algérie aussi, c'est les premières années de l'Algérie indépendante,
oui.
Il y a une proximité, en tout cas, qu'il n'y avait pas, si je puis dire, au moins physique, avec son père, qu'il n'y avait pas aussi auparavant, ce qui ne l'empêche pas très jeune, d'être très indépendant et d'essayer de subvenir à ses besoins.
Puisqu'à 13 ans, il quitte la maison familiale, ce qui est quand même tôt pour l'époque.
Cette fin aussi, elle s'exprimait, c'était la fin d'indépendance, d'autonomie. Elle s'exprimait effectivement déjà très 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 jeune.
Décide de quitter la maison familiale, alors que dans la famille ça allait mieux finalement, ça correspondait aussi à un moment donné où d'une certaine façon votre grand-père a commencé à mieux gagner sa vie, à avoir une grande maison. C'était la fin de la pauvreté.
Absolument, mais c'était pas en opposition à un modèle familial, si je puis dire, plus classique. Il avait tout simplement besoin de ça. Il avait grandi aussi de façon très, même s'il était le plus jeune, de façon très indépendante, si je puis dire, et de façon très autonome. Donc finalement, avec le recul, c'est vrai que 13 ans, c'est pas jeune, c'est extrêmement jeune. Mais à cette époque-là et dans ces conditions-là, pour lui, ça me paraissait naturel.
La femme de sa vie, dit-il, c'est sa grand-mère. Est-ce qu'il vous en parlait, de sa grand-mère?
Non. Non. Non, non. Comme je le disais tout à l'heure, non. Non, non.
Non.
Je sais simplement qu'elle a eu à l'allaiter. J'ai une photo qui m'a été transmise par ma tante à Tizi, mais non, elle n'a jamais eu à en parler. Bon, c'est vrai que je facilitais peut-être pas non plus forcément les choses, moi, en ne posant pas de questions.
C'est que les enfants ne pensent jamais à poser des questions à leurs parents. Ils pensent qu'ils sont éternels, donc ils posent pas de questions.
Et puis c'est même pas la question d'éternité. C'est plus pour ma part en tout cas, mon père a toujours été, il sera toujours, c'est un modèle absolu pour moi, à tout point de vue, en tant qu'homme avant tout, en tant que père, bien sûr en tant que chef d'entreprise, mais à tout point de vue. Et pour moi, plus jeune en tout cas, le simple fait de poser une question, c'était rentrer dans une forme d'intimité que, pour laquelle j'avais trop de respect, et c'était pas imaginable. La question se posait même pas d'une certaine manière, finalement.
C'était pas possible de poser des questions intimes, de l'ordre de l'intime en tout cas.
Pour moi, ça rentrait dans l'intime. À partir du moment où lui n'en parlait pas, je n'avais pas à poser de questions. C'était assez simple, finalement.
Est-ce que les générations qui ont suivi la vôtre sont comme ça aussi aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet, cette forme de, voilà, on ne pose pas de questions, c'est comme ça parce que c'est comme ça ?
Non,
je pense... C'est une forme de pudeur qu'on a connue chez les pères de la génération de votre père.
Absolument. Mais moi, je suis l'aîné, nous sommes trois frères. Je suis l'aîné, donc j'ai deux frères plus jeunes que moi. Forcément, ils n'ont pas eu le même. Chacun a eu un rapport différent.
Un rapport, voilà, différent.
Où il y avait moins de, peut-être entre guillemets, moins de tabous pour eux que pour moi. J'allais dire après, chacun son époque, sa façon de communiquer. Mais moi, je remplacerais ça pour rien au monde, parce que dire les choses entre les lignes ou à travers les anecdotes. Et de façon subtile, pour moi, ça a encore plus de valeur, de poids, que de les dire de façon brute, si je puis dire. Donc forcément, les temps changent, la façon de communiquer change. Moi-même, avec ma fille, je suis certainement pas le même. Mais si c'était à refaire avec mon père, je referais exactement la même chose.
Oui. Il n'y a pas des questions que vous lui poseriez en plus ?
Non. Non, non, parce que j'avais compris j'avais compris qui il était à force d'être à ses côtés, à force aussi de rencontres, hein, des gens qu'il avait pu côtoyer à différentes époques de son étape, si je puis dire, de ça.
Il était fidèle justement aux gens qu'il a rencontrés à différentes.
Toujours. C'était même pas un sujet. Il est toujours resté attaché.
Ils étaient là, ils étaient toujours là.
Toujours. Que ce soit en Algérie, en Kabylie, à Alger, à Montreuil.
Les gens de Montreuil.
Là où il a créé GoFast. Et puis par la suite, ça, c'était, il n'y avait pas de sujet. Ce n'est pas parce que ça aussi, c'est important de peut-être de dire cela ou de partager cela. C'est que peu importe le parcours qu'il a eu. Il est resté le même, exactement le même, dans son comportement avec les gens, avec ses proches, avec ses salariés et avec tous les gens qu'il a pu croiser tout au long de sa vie, qui ont pu aussi surtout, et ça il était reconnaissant de façon éternelle, ceux qui l'ont aidé de différentes manières tout au long de sa ou à différentes étapes de sa vie. Notamment un exemple, c'est la création déjà de GoFast Transport, où à l'époque il avait besoin de...
Alors, y avait eu plusieurs étapes d'ailleurs, hein. Il se retrouve agent de comptoir, hein. C'est comme ça qu'il découvre le...
Ça c'est le hasard de la vie.
Hein. Le tourisme, enfin il met un pied dans ce secteur pour lequel il n'était pas fait quand même.
Pas fait, je ne sais pas, peut-être que la suite a prouvé qu'il était fait pour cela. Pour autant, effectivement, il n'était pas...
Il cherchait quand même à manger, il cherchait un travail.
Exactement, sauf que là, c'est le hasard de la vie. Comme toute immigration, vous êtes aidé, pris en charge, si je puis dire, par des gens de la famille déjà établis ou des gens issus de la même région.
Alors, il arrive chez Jojo, hein, dans un hôtel... À Paris.
Exactement. Et puis là, une agence
comme
de voyage.
Comme ça existait dans ces années, des hôtels qui étaient tenus par les Kabyles, hein, par l'immigration.
Ça existe encore moins, beaucoup moins.
Il y en a moins aujourd'hui.
Beaucoup moins, effectivement.
Ils ont changé de métier d'ailleurs.
C'est normal, l'économie et le monde change. Et effectivement, une agence de voyage était en train de se créer. D'être créé rue de Charenton, juste derrière le
centre rue de Charenton,
exactement.
Pas loin du marché à Ligre.
Juste derrière. Et il a commencé, c'est le hasard de la vie, agent de voyage. Et il a découvert et appris à ce moment-là le métier d'agent de voyage pour lequel il a pris goût. Puis très rapidement, parce que le cadre aussi réglementaire à l'époque le permettait pour une agence de voyage, c'était de diversifier les activités. Il a commencé à mettre en place un service fret transit pour le transport des effets personnels des clients, notamment l'agence était très orientée notamment sur l'Afrique de l'Ouest, donc avec une problématique transport effets personnels importante.
Mais ça, c'est sa valeur ajoutée, c'est ça qu'il avait compris. qu'il y avait un vrai besoin dans ce secteur-là,
dans
le transport de voyage, voilà.
Il l'a compris, c'est en étant aussi, j'allais dire, c'est en étant sur le terrain en permanence, au contact des gens en permanence, et ça ne l'a jamais, quitté le terrain. Jamais.
Monsieur Areski, un destin à tire-d'aile, on en parle, et c'est ce destin d'Areski Hidjerouden qu'on déroule avec vous ce matin, à travers ce livre de mémoire qu'il avait écrit quelque temps avant sa mort. Le livre sort aux éditions Paris Méditerranée.
Le Book Club revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, on reçoit aujourd'hui Méziane Hidjerouden. Vous venez nous parler du livre de mémoire de votre père, Areski Hidjerouden. Ça s'appelle Monsieur Areski, un destin à tire-d'aile aux éditions Paris Méditerranée. Il y a sa photo en couverture de livre. On va écouter une chanson. Je vous ai demandé de choisir un artiste et une chanson que votre père aimait beaucoup.
Et c'est lui qui l'a, c'est même pas moi qui l'ai choisi, moi je ne suis que le messager. C'est une chanson de Lonis Aitungeldet.
Alors, quel est le titre?
Je ne sais pas le dire.
Oui, moi non plus, donc on va l'écouter, comme ça on ne prendra pas le risque. إذ القيادة ما تجي دار ومين يا سمي تتحوزم دايلا نكون ولاش كونو ويلا مسيح يا ناس اسم الثورة ما كوني خضر بين يا سمي تتحوزم دايلا نكون ولاش كونو ويلا مسيح يا ناس اسم الثورة ما كوني خضر بين يا جاجيح ياسمي قعد داير جاتي بوجلت وجلال جرح دي مطيم ويني روح نسمي يا جدا خامس يخلت برمدك وخنويم زرمي الشاب صرينا ودونا فيك دمك ومزي يا ناس اسم الحورية ما كوني خضر بيم زرمي الشاب صريمة مدونة فيك دنك ومزي يا ناس اسم الحورية ما كوني خضر بين ثامرتو غلا ونزيلة تجم تاكني دوني هو يير ونيد ثغليم غرو نشاثب غم يلاي ونور زميرة ينادى والشعب توليم سبون ثامر تريكة وين تقناس ديني مكة القر مغذ شتيراكية ما كوني خضر بيم سبون ثامر تريكة وين تقناس ديني مكة القر مغذ شتيراكية ما كوني خضر بيم إيوا كنات صدفن بذن صفرقن ثامر تبظم غرب شرقين ذو ثنغ ثنرنا لاسمن دهني سوفة تسقم دي تليم يرنا نتمع الستر رمغ ويكث ومثن أماغ زيدك لك ما كوني خضر بيم يرنا نتمع الستر رمغ ويكث ومثن أماغ زيدك لك ما كوني خضر بيم عسى عس فضونا قبوس غسى كينا مازال نخصنا البحدة ظليم غس في مسنين زيك تتنسيو غلغت غل جرح المسميت اللي مكنوين نكوني سشعب مكك حوسي كيغرون يذن غذروس مازال مكاثة ونافوسة غيخضر بيم كوني سشاب مك حوسي كي ضروني يدن وذرو سما زميك ثونا فوسا غي خضر بيم نكوني سشاب مك حوسي كي ضروني يدن وذرو سما زميك ثونا فوسا غي خضر بيم نكوني سشاب مك حوسي كي ضروني l'histoire d'Ariski Djerwiden, grand patron, fondateur du groupe GoFast, avec un F majuscule. Hein.
G majuscule, F majuscule. Groupe ouais. GoFast qui est devenu aujourd'hui le groupe Weaving.
Voilà. Voilà, donc, qui a racheté. Ensuite, on verra tout à l'heure dans quelles conditions votre père va décider de racheter une compagnie qui était un peu à l'abandon, même carrément à l'abandon, qui s'appelle Eglasure, hein, que vous connaissez bien, puisque vous la prenez hein, souvent pour aller en Algérie, vous qui nous écoutez. Votre père va se tourner vers le tourisme en France, et puis une première une loi, une disposition législative va faire que ça va réorienter son activité.
Effectivement, l'obligation pour une agence de voyage de faire que de la billetterie, que ce soit de l'aérien, du maritime ou du ferroviaire. Et par contre, l'activité, ce qu'on appelle transit, transport de marchandises, de fret, doit être scindée. C'est une activité réglementée avec un registre commerce, une activité spécifique. C'est alors qu'il crée, à cette occasion, effectivement, en 1983, la société GoFast Transport.
Voilà, le groupe GoFast qui va s'envoler grâce à un marché, celui de la distribution aérienne de la presse arabe imprimée en France. Ça aussi, c'est une histoire, une belle histoire.
C'est les hasards des rencontres, et c'est toujours en étant quotidiennement sur le terrain qu'il a saisi effectivement des opportunités. Parmi celles-ci, quelques années après la création de GoFast, il y a eu le transport de la presse arabe, qui, bon, malheureusement,
va s'arrêter,
s'est écroulé suite à la première guerre du
Golfe.
Et comme toute aventure entrepreneuriale, il y a des hauts, il y a des...
En août 90, mais une autre rencontre, puisque c'est celle avec la Sonatrach, qui, là, elle aussi, va participer à l'accroissement du groupe, là.
Indirectement, si je puis dire, dans le sens où, effectivement, où il y a une ouverture réglementaire, toujours une évolution réglementaire au début des années 90 dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures qui permet de qui attire, si je puis dire, un certain nombre d'acteurs, enfin les acteurs pétroliers, parapétroliers internationaux se posent alors le problème du transport. C'est les années 90, il était extrêmement compliqué de se rendre en Algérie. Air France avait interrompu ses liaisons, donc c'était extrêmement déjà compliqué pour la diaspora de s'y rendre. Alors se rendre dans la région gazière, pétrolière de l'Algérie, à savoir la région de Ouargla, Sim Saoud, n'en parlons pas, c'est alors qu'il fait un pari, c'est de passer de transitaire à logisticien, début de la logistique, et surtout à fretteur. Et il affrète un avion. À ce moment-là, c'est vraiment un pari. Il met le chiffre d'affaires de l'année sur un vol, un avion, qui fera Le Bourget à Sim Saoud en vol direct. Et c'est des avions, ce qu'on appelle combi, cargo à l'avant, passagers à l'arrière, à destination des personnels pétroliers qui allaient sur ce qu'on appelle les bases vie. Et puis ça prend, les vols se multiplient au départ du Bourget, toujours en affrètement.
Mais c'était un pari, hein, c'était voilà, faut le dire.
C'est un pari complètement fou, hein, avec le recul. Et puis bon, il le raconte très bien dans son autobiographie, même d'un point de vue, bon, le risque financier, j'allais dire, n'en parlons pas, qui était à cette époque-là colossal, mais aussi un risque dans un secteur qui est extrêmement réglementé, le transport aérien. L'obtention aussi des droits de trafic à cette époque-là qui est extrêmement...
C'est un vrai combat, ça. Hein.
C'est un vrai combat. Quelques heures avant son premier vol, on remettait en question les droits de trafic. Donc c'est des aventures aussi, des batailles qu'il a eu à mener, qui, pareil, l'ont marqué tout au long de sa vie et de son parcours professionnel, notamment, et qui ont permis aussi ces expériences-là compliquées de réussir ce qu'il a réussi avec plus tard avec Eglasure.
Eglasure, qu'il rachète le 29 mai 2001. La compagnie se trouve à l'époque basée à l'aéroport de Pontoise. C'était quand même il fallait vraiment être visionnaire, hein, pour s'imposer comme un des acteurs du transport aérien, et là, cette fois-ci, de passagers.
Mais il avait déjà une aventure. Eglasure n'est pas la première, il y a eu différentes étapes, n'est pas la première aventure purement transport aérien, puisque une fois qu'il a lancé, donc en 95, ses affrètements entre Le Bourget et Paris Le Bourget et Sim Saoud, il a pris goût, voire même, comme il disait, il a été contaminé par le transport aérien. et là en tant qu'opérateur. Mmh. Donc l'étape d'après, ça a été de créer une compagnie, chose qu'il a faite en 98, dès 98, en Algérie, puisqu'il a monté la première compagnie aérienne de droit privé à l'époque, qui s'appelait Antinéa Airlines. Mmh. Et contaminé qu'il
alors
était.
On rappelle, parce que pour ceux qui ont connu ces époques-là, c'est vrai qu'il y avait des acteurs qui ont disparu beaucoup. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de morts dans l'aérien, dans ces années-là.
Ouais,
quand
continue.
Je dis les morts, c'est des compagnies. Hein.
Oui, j'ai bien. absolument, c'est un secteur extrêmement
concurrentiel.
On retrouve,
pour ceux qui l'ont pris, mais la fameuse compagnie Khalifa Airways.
Effectivement, elle fait partie des compagnies qui ont été créées, en tout cas en Algérie, à cette période-là. Mais la casse, comme vous dites, il y en a eu au niveau transport aérien, elle est mondiale. Et puis après avoir cédé Antinéa, il a racheté Aigle Azur, qui était, oui, il y a une part, bien sûr qu'il y a du rationnel, il n'a pas investi dans quelque chose qu'il n'aimait pas, mais il y a aussi une part d'irrationnel aussi. Hein. Ça fait partie. Et qui pouvait imaginer, même lui, il ne l'imaginait pas à ce moment-là, au moment où il reprend cette entreprise, qui est une très belle histoire, méconnue, mais une très belle histoire. Qu'il en ferait ce qu'il en a fait quelques années après.
Alors ça commence par un bras de fer avec un ministre qu'on a un peu oublié, mais qui est toujours vivant d'ailleurs, Guessou.
Absolument.
Voilà, puisqu'il faut obtenir des autorisations, des créneaux de vol. Il revient également sur un événement qui nous a tous touchés pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque. C'était le 21 mai 2003, c'est le tremblement de terre de Boumerdas, et là le pont aérien qui va se créer et le rôle d'ONG que va jouer le groupe finalement à l'époque.
Absolument, spontanément. Il a dit on met en place des vols passagers, cargo pour acheminer du matériel. D'ailleurs, on avait beaucoup communiqué sur vos ondes à l'époque, je me rappelle très très bien.
Je me rappelle, c'était un pont aérien, c'était un pont radiophonique, c'était...
Et effectivement, c'est une étape importante. C'est tout lui. La question ne s'est pas posée un instant. Il n'y avait pas de rationalité purement économique là-dedans. Bien au contraire, c'était la solidarité. Comment, avec les outils et les moyens que nous avons, on peut aider dans de telles circonstances. Donc, les vols de plusieurs aéroports de France ont été mis. Comme vous l'avez dit, c'était un pont aérien qui avait été mis en place.
C'était il y a 15 ans, c'était avant les réseaux sociaux, la généralisation des téléphones portables. Aujourd'hui, évidemment, ça ne se passerait pas de cette façon-là, mais c'est vrai que Beurre FM servait de pont, mais c'est vrai, parce que tout le monde voulait savoir des nouvelles des familles, des nouvelles des gens.
J'ai une anecdote là-dessus, d'ailleurs. À cette époque-là, je terminais mes études, même si je travaillais en parallèle, et la façon de communiquer aussi. Moi, j'avais fait des prospectus que j'imprimais, que je collais à la fac à Paris 1, justement pour rappeler aux dons. Donc, c'est 15 ans, c'est hier, mais effectivement, ça paraît être aujourd'hui une éternité.
Votre père était un homme qui fonctionnait à l'instinct, qui voulait et qui a géré son groupe comme une entreprise familiale, finalement, et qui est arrivé à le faire.
La valeur ou les valeurs familiales ont toujours été bien sûr omniprésentes chez lui, et ça se ressent bien évidemment dans les différentes entreprises qui constituent le groupe, mais jamais au détriment de l'intérêt
de l'humain.
L'entreprise, de l'humain bien sûr. Mmh. Et l'intérêt premier a toujours été et sera toujours l'entreprise ou les entreprises. Donc ça a toujours été omniprésent chez lui.
Qu'est-ce que votre père vous a appris à vous?
quand
vous vous regardez aujourd'hui à l'âge qui est le vôtre, vous vous dites, tiens, ça c'est lui. Quand je me regarde, c'est lui.
Si vous voulez, je n'ai pas cette... j'ai ce rêve, oui. Pour moi, ce serait de la prétention, prétention que je n'ai pas. Bien au contraire, j'aspire à rester tel que je suis, tel qu'il m'a élevé, dans le rapport avec les autres. Et c'est pas des valeurs, j'allais dire entre guillemets, les valeurs d'entreprise, c'est sans manquer de respect aux entreprises, bien au contraire. J'allais dire, elles sont secondaires. C'est avant tout des valeurs de personnes, d'hommes. qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui reste fidèle et qui aide les siens. C'est ça le plus important.
Méziane Djaouiden, notre invité aujourd'hui, l'invité du Book Club. Je vous rappelle que Monsieur Areski, un dessin à tire d'aile, vient de sortir aux éditions Paris Méditerranée, ce livre que votre père a écrit, qu'il n'a jamais vu, hein, puisque vous l'avez assemblé après sa disparition.
Absolument.
Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous.
Et très bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.